Radio Kapi.
À la présentation du journal, Blaise Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal Vespéral. Mais voici d'abord les titres. Session parlementaire de septembre. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale appelle à la cohésion nationale pour le retour d'une paix durable. Même son des cloches du côté Sénat, où le président du Sénat réaffirme l'engagement de son institution à soutenir les initiatives du président de la République visant la restauration de la paix dans l'est du pays. En Ituri, moins de 10 écoles primaires et secondaires sont opérationnelles sur une centaine que compte la chefferie de Wallis et Vonkoutou dans les territoires du Rumu. De nombreux habitants de cette chefferie regagnent progressivement leur village d'origine abandonné depuis environ 5 ans à cause des exactions des rebelles des ADEV. Yves Bassambi, vice-président du conseil communal de Saint-Josse en Belgique, est notre invité. Il revient sur la commémoration du premier anniversaire de l'inauguration d'une stèle en hommage aux anciens combattants congolais de la force publique qui ont combattu aux côtés de la Belgique durant les deux guerres mondiales. Encore une fois, bonsoir à tous. Ouverture ce lundi de la session parlementaire de septembre 2025 à l'Assemblée nationale et au Sénat. À en croire les speakers de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, cette session essentiellement budgétaire mettra en priorité d'abord la défense de l'intégrité territoriale du pays, mais aussi l'amélioration des conditions de vie de la population. Face à ces défis, le président de l'Assemblée nationale appelle à la cohésion nationale pour le retour d'une paix durable. Suivez Vital Kamerhe.
Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. À notre peuple vaillant, je voudrais redire cette certitude. La paix finira par l'emporter, quelle que soit la durée de la guerre. Alors, notre pays retrouvera sa vocation naturelle, celle d'impulser le développement sur l'ensemble du continent. Nous travaillerons avec tous nos 9 voisins et le reste du monde pour donner à nos peuples respectifs ce à quoi ils aspirent. Nous ne demandons rien d'autre que de vivre en paix avec tous les voisins et de tourner ensemble nos regards vers l'horizon qui conduira nos peuples respectifs au rendez-vous avec l'espérance. Que vive la paix, l'amour et la cohésion.
De son côté, le président du Sénat réaffirme l'engagement de son institution à soutenir les initiatives du président de la République visant la restauration de la paix dans l'est du pays. Tout en reconnaissant de nombreux défis auxquels le pays fait face, Jean-Michel Sama Lukonde appelle au renforcement du secteur de la justice. On l'écoute.
La présente session s'ouvre dans un contexte marqué par des enjeux importants pour la vie de notre nation. Notre pays fait actuellement face à des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers qui nécessitent des solutions coordonnées et pragmatiques. Face à ces défis, il incombe aux sénateurs, aux membres du bureau et à moi-même de faire preuve d'un engagement loyal. Cette loyauté nous mènera à prendre des décisions, à formuler des recommandations susceptibles d'avoir une influence directe sur l'évolution politique, économique et sociale du pays, dans le but de consolider l'unité et la cohésion nationale. La question de la justice constitue l'un des principes fondamentaux de l'état de droit et de la démocratie. Les réalités judiciaires de l'heure, bien que complexes, sont au cœur de la consolidation de la paix et de la stabilité du développement de notre pays. C'est à ce titre que le Sénat invite le gouvernement à renforcer l'application des lois existantes afin que celles-ci produisent pleinement leur effet pour lutter contre l'impunité et assurer un accès égal à la justice pour tous.
C'est un dossier signé Grace Amzati Massanzi. En marge de cette rentrée parlementaire, les acteurs de la société civile du Nord Kivu lancent un appel aux élus nationaux de cette province à défendre la cause des populations de cette partie du pays. Certes, la session de septembre est budgétaire, mais il n'est pas exclu pour les sénateurs et députés nationaux de relever les préoccupations de leurs électeurs, estiment ces acteurs de la société civile. On écoute l'un d'eux, Christian Kalamo, président de la société civile sous coordination de la commune de Karisimbi en ville de Goma.
L'attente de la population est que les députés puissent stabiliser des problèmes sécuritaires qui se passent à l'est de la RDC, dans le nord et le sud Kivu. Vous savez ce que les ADF sont en train de faire au nord Kivu. Ils ont tué la semaine passée, la nuit d'hier à aujourd'hui. Ils ont tué encore et incendié beaucoup de choses. Vous allez voir nos députés de l'est, en tout cas, on dirait tout va bien. Ils sont aussi derrière les pétitions, ils sont derrière la prolongation de l'état de siège. D'ailleurs, moi, je me demande, nos députés là, qu'est-ce qui vous motive de signer la prolongation de l'état de siège? Avant l'état de siège, nous avions nos territoires, nous avions nos provinces, mais voilà là où nous sommes aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle moi je demande à nos députés de Goma de quitter leur silence. Pourquoi ils gardent leur silence? Ils sont que dans des distractions, ils sont en train de demander qu'on puisse augmenter des salaires et quoi. Il faut quoi réellement? Pourquoi leur silence? Nous leur demandons en tout cas de s'imposer pour tabler sur les problèmes sécuritaires et que la population puisse avoir les résultats de ce qu'ils ont fait. Nous ne voulons pas qu'en 2027 ou 2028 ils commencent à venir à dire, voilà moi. Non. Nous voulons palper la réalité de ce qu'il faut. En tout ils gardent trop de silence et on se demande, ils ont changé ou quoi? Qu'est-ce qui se trouve à Kinshasa là-bas?
Par ailleurs, l'ASB Justice et Paix Congo, JPC, lance sa première édition de la semaine dite Justice et Paix. C'est en marge de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année par les Nations Unies. Au cours d'un point de presse organisé ce lundi au centre interdiocésain, les évêques et membres de la commission épiscopale Justice et Paix de la CENCO ont présenté le programme des activités pour cette célébration à travers tous les diocèses catholiques de la RDC, les bilans et les perspectives d'avenir de la JPC. Reportage de Jeff Ngoïmolonda.
Une journée nationale justice et paix sera observée dans tous les diocèses catholiques du pays. Le mandat de la JPC consiste en l'étude et l'approfondissement des problèmes relatifs à la justice et à la paix dans la société congolaise en vue d'éveiller le peuple congolais et ses dirigeants à la paix et aux droits humains pour la transformation des structures mentales sociopolitiques qui oppriment l'homme. En termes du bilan, Mgr José Moko, évêque de Diofa, présente une des réalisations du réseau Justice et Paix Congo.
La cohabitation pacifique de la majorité de communautés à travers le pays. Il existe de milliers de foyers de tensions intercommunautaires. Le travail que mène le réseau national Justice et Paix permet de contribuer à éviter leur éclatement.
Cyril Botoko, secrétaire exécutif de la JPC, donne quelques perspectives pour les 5 années à venir.
Notre première tâche sera de renforcer les mécanismes de collaboration et de coordination au sein de notre réseau. Vous avez suivi ces 48 commissions diocésaines de justice et paix à travers le pays. Nous allons développer des mécanismes de collaboration avec les autres organisations nationales et internationales.
Le réseau annonce qu'elle va poursuivre son travail sur la crédibilité du processus électoral en RDC, collecter et documenter les cas de violation des droits de l'homme.
En Ituri, nous le disions en titre, moins de 10 écoles primaires et secondaires sont opérationnelles cette année scolaire 2025-2026 sur une centaine que compte la chefferie de Walese et Vonkutu dans les territoires d'Irumu. Selon des sources locales, plusieurs entités où l'on signale le retour des populations ne disposent toujours pas d'école, celle-ci étant fermée depuis près de 5 ans à cause des exactions des ADF. Les autorités locales lancent un appel au gouvernement pour la réhabilitation des infrastructures scolaires détruites. Isaac Remoyope pour les détails.
De nombreux habitants de cette chefferie située sur l'axe routier Komanda-Luna, à la limite avec le nord Kivu sur la RN4, regagnent progressivement leur village d'origine, abandonné depuis environ 5 ans à cause des exactions des rebelles ADF. Mais la plupart des enfants, revenus avec leurs parents, ne fréquentent toujours pas l'école dans plusieurs localités, notamment Pinzili 1, 2 et 3, Ofai, Mafifi, Manzobe et Apende. Principale raison, absence d'enseignants ou encore bâtiments scolaires détruits ou incendiés. La société civile du territoire d'Irumu s'inquiète de l'avenir de ses enfants privés d'école depuis 5 ans lors de leur déplacement à Komanda. Dieudonné Malangaï.
Ça fait plus ou moins 5 ans les élèves n'étudient pas dans certaines écoles sur ces trousseaux. Certaines écoles étaient combinées dans une même place au déplacement.
De son côté, le chef de la chefferie encourage les enseignants et autres déplacés à retourner dans leur village d'origine où la sécurité est désormais assurée grâce à la présence des forces armées. Il appelle également le gouvernement à réhabiliter rehabiliter ou reconstruire les écoles détruites. Andibo Okaoumé.
Cette rentrée scolaire, il faudrait que les enseignants rentrent dans les établissements. Nous aider pour la construction de ces bâtiments.
Plus de 90 écoles primaires et secondaires restent fermées sur la centaine qui existait autrefois dans la chefferie de Walesse Vankoutou. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Éducation toujours, les enseignants de Mbandaka ont décidé de reprendre les cours ce lundi après deux semaines de grève. La décision a été annoncée samedi dernier au cours d'une assemblée générale de l'intersyndicale des enseignants. Plusieurs raisons ont été avancées pour permettre aux enseignants de reprendre la caisse ce lundi. Entre autres, la réception pendant la semaine dans les comptes bancaires des enseignants 50 000 francs congolais, les compléments des salaires promis par le gouvernement central. Le président de l'intersyndicale de l'Équateur, François Moukadika Chama, le confirme dans ses propos recueillis par Askin Zigba.
À l'issue de l'Assemblée générale de ce samedi 13 septembre 2025, relative à l'évaluation de la grève déclenchée depuis le 1er septembre 2025 sur toute l'étendue de la province de l'Équateur, jour de la rentrée scolaire 2025-2026, après débat et délibération, les enseignants décident à l'unanimité de suspendre la grève et de reprendre le chemin de l'école dès ce lundi 15 septembre 2025 et privilégie la mission de l'organisation d'identification des enseignants qui est fonction de l'augmentation salariale et paiement des NU et NP en s'alignant à la déclaration nationale de la camarade Cécile Tshiombo Kankolongo, secrétaire générale du CIECO.
Santé à présent, la zone de santé des Manono dans le Tanganyika se mobilise pour la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune. Cette campagne est prévue du 23 septembre au 2 octobre prochain. L'annonce a été faite hier samedi au cours d'un briefing de presse avec les médias locaux. Mais c'est quoi la fièvre jaune? Quels sont les symptômes? Réponse avec Dr Patrice Sango, médecin chef de zone de santé des Manono. Il est au micro de Paulin Munanga.
La fièvre jaune est une maladie qui est virale. Cette maladie est transmise par des piqûres, des moustiques qu'on appelle les Aedes. Et ces moustiques qui sont infectés vont transmettre la maladie à l'homme à travers des piqûres. Et cette maladie se manifeste par des maux de tête, des courbatures, la fièvre. Pourquoi on l'appelle fièvre jaune? Parce qu'il y a la notion de la fièvre et la coloration jaunâtre des mycoses. Cette maladie peut évoluer vers des complications cardiaques, des complications hépatiques en rapport avec le foie et des complications rénales en rapport avec les reins. C'est une maladie très grave, très mortelle. Il n'y a pas un traitement spécifique contre cette maladie. Le traitement, c'est juste un traitement symptomatique. Alors, le meilleur traitement, c'est la prévention. Et la prévention passe par la vaccination. Il y a un vaccin qu'on appelle VAA, vaccin anti-amarile.
Province du Sankourou, avant d'aller plus loin, le trafic routier est suspendu depuis bientôt deux semaines sur l'axe Lodja et Benadibele, long de 150 km sur la nationale numéro 7. Cela après l'effondrement du pont Yengela, situé à 6 km de Benadibele. Les conséquences se font déjà sentir sur le plan économique à Lodja avec la hausse de certains produits de première nécessité. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les témoins affirment que le trafic routier reste interrompu sur la RN7 au niveau du pont Yengela. Un camion transportant des marchandises en provenance de Benadibele vers Lodja a été coincé pendant quelques jours lors de la traversée du pont. L'office des routes est intervenu pour le retirer. La même source précise que le passage est devenu difficile sur ce pont et par conséquent plusieurs produits manufacturés augmentent de prix chaque jour à Lodja. Explication d'un revendeur de carburant.
On était en train de prendre un litre de carburant à 3500, 3000, mais actuellement à jusqu'à 11000. On ne sait même pas où commencer. Toutes les activités sont bloquées. Nous cherchons l'implication du gouvernement central, tout comme le provincial.
Contacté, le directeur provincial de l'office des routes signale que les éléments d'un nouveau pont matière sont déjà au port de Benadibele. Son service attend les moyens financiers pour le début des travaux de remplacement du pont vétuste. Signalons que le matériel de construction de l'aéroport de Lodja en provenance de Kinshasa passe également par le pont Yengela avant d'atteindre la destination. L'arrêt momentané des trafics risque de prolonger la durée des travaux. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Guinée, la campagne pour le référendum constitutionnel entame sa dernière ligne droite avant le vote de ce dimanche 21 septembre. Une période marquée par la suspension des principaux partis politiques, l'UFDG de Sélou d'Alain Diallo et le RPG d'Alpha Condé, qui appellent à boycotter le scrutin. Seule la junte et le gouvernement organisent des meetings pour le oui. Parmi les points de la Constitution le plus controversé, c'est la création d'un Sénat.
L'invité.
Notre invité est Yves Bassambi, vice-président du conseil communal de Saint-Josse en Belgique. Il s'exprime sur la commémoration, le 8 septembre dernier, du premier anniversaire de l'inauguration d'une stèle au cimetière Saint-Josse. Ce monument rend un vibrant hommage aux anciens combattants de la force publique du Congo, des soldats qui ont combattu aux côtés de la Belgique durant les deux guerres mondiales. Pour Yves Bassambi, cet événement est un moment clé de mémoire, de recueillement et de transmission. Yves Bassambi s'entretient avec Kéline Kouté.
Yves Bassambi, pourquoi est-il important pour la diaspora congolaise de Belgique de commémorer les anciens combattants de la force publique?
En fait, comme je l'ai souligné dans mon discours, il est essentiel de commémorer les anciens combattants de la force publique parce qu'ils incarnent le courage, le sens du devoir et le sacrifice pour des idéaux qui dépassaient leur propre existence. En fait, il faut se rappeler que ces anciens combattants étaient des hommes simples qui ont été arrachés à leur terre pour combattre dans une guerre qui n'était pas la leur, mais qu'ils ont accompli avec un sens du devoir, de l'honneur et du sacrifice. Leur mémoire pour les générations futures est une source d'inspiration et surtout un rappel que la dignité et la paix se construisent au prix de grands sacrifices. Pour notre diaspora congolaise, honorer ces combattants, c'est non seulement maintenir vivante une part de notre histoire commune avec la Belgique, c'est une réalité, mais aussi transmettre à nos enfants, aux générations futures, un héritage de résilience et de valeurs universelles.
Comment la jeunesse peut-elle s'approprier les valeurs d'humanisme et de paix portées par cet événement et quel est le rôle de la commune de Saint-Josse dans cette transmission?
La jeunesse peut s'approprier ces valeurs en s'inspirant du courage et du sens du devoir de ses anciens combattants. Non pas en prenant les armes, qu'on s'entende bien, mais en s'engageant pour la paix, la solidarité et la justice dans leur vie au quotidien. Les valeurs prônées à travers le sacrifice de nos anciens combattants doivent devenir un moteur pour refuser justement la violence et défendre l'humanisme sans concession. La commune de Saint-Josse, à son niveau modeste mais quand même important, a un rôle clé. Elle est un espace de mémoire et de transmission. Et à ce titre, je remercie la démarche initiée par son bourgmestre, les Juines, la conseillère communale flamande et moi-même votre serviteur. Parce que, à travers des commémorations, des initiatives pédagogiques et des projets citoyens, la commune permet justement aux jeunes de comprendre que la paix ne se maintient que par l'engagement. Il n'y a pas de secret. La volonté également et la justice, comme je l'ai souligné dans mon discours. Ainsi, elle contribue à former une jeunesse consciente, porteuse d'un message de fraternité et de paix.
Comment, en tant que représentant politique en Belgique, comptez-vous utiliser cette commémoration pour sensibiliser les autorités belges et européennes aux défis sécuritaires actuels en RDC et quel message souhaitez-vous leur adresser?
Vous savez, cette commémoration a été un moment fort qui me permet de rappeler aux autorités belges et européennes que l'histoire crée des responsabilités. Tout comme la Belgique et le Congo ont partagé le sacrifice des anciens combattants, elles partagent aujourd'hui un devoir de solidarité face aux violences qui ravagent l'Est du Congo. Mon rôle est de transformer ce devoir de mémoire en un devoir d'action politique. Juste pour vous rappeler une chose, il y a un proverbe en Afrique qui dit « Quand les racines d'un arbre commencent à pourrir, il ne faut pas attendre qu'il tombe pour agir ». En fait, face à cette tragédie de l'Est, nous, à Saint-Josse, avons refusé de rester silencieux. Car le silence pour nous est une forme de complicité. Il était urgent de se mobiliser, d'alerter l'opinion publique et de soutenir le victime. À cet effet, le 27 mars 2024, une motion à l'initiative du bourgmestre de l'Échevine, de la conseillère communale flamande et portée par votre serviteur a été adoptée à l'unanimité au conseil communal de Saint-Josse et qui rappelait trois choses fondamentales. Premièrement, la défense des droits humains. Deuxièmement, le soutien aux populations oubliées. Et troisièmement, le refus de l'impunité. Dès lors, je souhaite dire aux autorités que la paix en RDC n'est pas une question lointaine. Je le répète encore, la paix en RDC n'est pas une question lointaine, c'est une exigence de justice internationale, car il ne peut y avoir de paix sans justice, et l'Europe, aux côtés de la Belgique, doit agir avec courage et cohérence.
Merci.
Je vous remercie pour toutes vos questions.
C'était notre invité Yves Bassambi, vice-président du conseil communal de Saint-Josse en Belgique. Il s'entretenait avec Kéline Couté. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal Vespéral qui a connu la coordination éditoriale de Vicky Odiambala, la supervision de Poli Mouzalia, Pierre Diassino à la mise en onde. Vous pouvez encore retrouver ce journal sur toutes nos plateformes numériques ainsi que dans notre site internet www.radiocapi.net.